qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver encore une fois. Bonsoir Nathalie, bonsoir Théo. Non, Théo, il ne veut pas répondre. Il est désagréable ce soir, je trouve. Hein?
Ah, moi, j'ai pas de micro, je suis punie, moi.
On va le chauffer. Alors, encore des nouvelles recettes pour donc des belles recettes faciles à faire et à refaire. Et comme je dis toujours, à partager en famille ou entre amis. Hein, c'est important de partager ces belles recettes et de le bien manger. Alors voyons ensemble le menu de ce soir. Aujourd'hui, on va encore une fois un petit peu voyager, mais en France, entre autres. Et puis, on verra. Alors, vous avez certainement vu sur Facebook le dessert. Voilà, je vais vous expliquer comment m'est venue cette idée. Et j'ai retrouvé cette idée sur le web. Donc, j'étais très, très amusée. Déjà, on va commencer par l'entrée, qui est une quiche aux légumes et au Cantal. Pour cela, il vous faudra 200 g de cantal, 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, 25 cl de lait entier, 20 cl de crème fraîche, 400 g de légumes cuits surgelés. Donc, il faudra que vous les cuisiez, que vous même pas cuits. Vous verrez dans la recette. Je vais pas dépasser le schéma. Du sel, du poivre, 300 g de farine, 150 g de beurre mou, une pincée de sel et 10 centilitres d'eau. Pour les ustensiles, il vous faudra un fouet, un saladier, un moule à tarte ou 8 moules individuels. Ça peut être aussi sympa en faire un en individuel. Vous pouvez le faire en mignardise aussi, mais ça, je vous expliquerai peut-être à la fin de la recette si vous êtes sage. Il faudra un rouleau à pâtisserie puisqu'on a une pâte à faire, une râpe et une feuille de cuisson. Pour le plat, on va faire quelque chose que peu de gens connaissent, mais qui est une viande qui est très tendre. Il suffit de la cuire longtemps. C'est de la joue de porc, mais cette fois, on va la faire à la bière. Pour ça, on aura besoin de beurre et d'huile, d'une cuillère à soupe de miel, du sel, du poivre, 1 kg de joue de bœuf.
De porc.
Oui, parce que la joue de bœuf, c'est pas la même. Hein. Et vous verrez, elles sont petites, les joues de porc. Vous devriez pouvoir en avoir à peu près 5, voilà, 5-6, c'est au kilo. On aura besoin de 2 oignons, de 200 g de lardons, de 33 cl de bière, donc ça fait une canette à peu près, et de 4 carottes. Pour les ustensiles, on aura besoin d'une cuillère en bois, d'une marmite avec un couvercle, un plat de service, un économe et un couteau. Pour le dessert, je vous ai préparé un dessert qui va épater en moins de 2. Voilà, c'est un dessert, je ne peux pas donner son nom, il n'a pas de nom. Voilà, moi je mangeais ça quand j'étais gosse. Pour ça, il vous faut 2 cuillères à soupe de sucre, 3 pommes. Moi j'aime bien prendre les acides, les pommes vertes un peu acides. Ouais, elles sont pour ce dessert-là. Bon, après, ça dépend des goûts. Les galas peuvent être bien aussi. Et les Pinky Lady, c'est du sucre, hein, ça peut être bien aussi. Mais vous avez possibilité de faire avec 3 pommes différentes si vous avez. On aura besoin de 1,5 poignée de céréales, donc ça c'est suivant votre goût et suivant les verrines et les grandes verrines que vous aurez. On aura besoin de 12 bonnes cuillères à soupe de fromage blanc, 1,5 cuillère de cannelle, donc une cuillère, ça dépend les goûts, une cuillère à café de cannelle, 1,5 cuillère à soupe de cassonade. Et puis on aura besoin d'une belle cuillère à soupe de crème fraîche épaisse, de 50 g de chocolat et du vermicelle de couleur ou de chocolat, comme vous voulez, c'est comme vous aimez. Ensuite, on aura besoin, au niveau ustensile, on aura besoin d'un fouet, d'un saladier, de 6 verres ou des grandes verrines. Hein, prenez pas des petites verrines, prenez plutôt des contenances, des verres, c'est plus sympa. Parce que dans les verrines, ça va être plus compliqué, surtout avec les céréales. Et puis, on va avoir besoin d'un économe, d'un couteau, d'un plat allant au micro-ondes, et puis d'une casserole et d'une cuillère en bois. Voilà, avant de commencer tous ces détails, parce qu'on va avoir quand même quelques détails, on va avoir Nathalie qui va intervenir sur de l'histoire, sur des détails de choses et d'autres. Et ben, avant de commencer, on va déjà, dans un premier temps, faire une gentille petite pause. Et on se retrouve tout de suite pour les explications des différentes recettes. À tout de suite.
Salut, c'est Jade Anaé sur Infini Radio.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici. Donc on va commencer par la quiche aux légumes et au Cantal. Mais avant ça, Nathalie, j'aimerais bien que tu nous parles du Cantal, ce fameux fromage qu'on va utiliser pour cette recette.
Alors quoi vous dire sur le Cantal ou fourme de Cantal? C'est un fromage français à pâte pressée non cuite, originaire du Massif central. Il est fabriqué à partir de lait cru de vache ou pasteurisé. L'appellation d'origine de cette fourme est préservée par une AOC en France et par une AOP au niveau européen. Il faut 400 litres de lait pour la confection d'une fourme de 40 kg. Il tient son appellation du massif dont il est originaire. Le lait caillé et pressé s'appelle la tome. Je ne sais pas si on dit tome ou tome de Cantal. Cette tome, une fois brisé et salé, est mis en moule et de nouveau pressé. C'est ainsi que sont réalisées les fourmes de Cantal. La tome fraîche peut aussi servir à préparer la truffade. Sa meilleure période de consommation s'étend de mai à janvier, consommation. Je pensais qu'on pouvait toute l'année, hein, si on aime le fromage. Officiellement, il porte ce nom dès 1298. Il est produit dans des burons avec le lait de vache de Salers, qui était conduite chaque printemps à l'estive dans les pâturages se trouvant autour du plomb du Cantal.
Merci Nathalie. Alors si jamais vous n'avez jamais été dans le Massif central, visitez les burons et mangez de la truffade et de l'aligot. C'est peut-être une recette que je ferai à un moment donné, parce que l'aligot, la saucisse aligot, c'est une spécialité du Cantal et c'est extrêmement bon. C'est un peu gras puisque c'est fait avec de la tomme de fraîche, mais c'est super bon. Voilà. Bon, alors on va revenir quand même un petit peu à notre recette puisqu'on est là pour ça. Je vous en rappelle les ingrédients. Il vous faut 200 g de cantal, 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, 25 centilitres de lait, entier c'est mieux, 20 centilitres de crème fraîche, 400 g de légumes surgelés, du sel, du poivre, 300 g de farine, 150 g de beurre mou, une pincée de sel et 10 centilitres d'eau. Pour les ustensiles, il vous faudra un fouet, un saladier, un moule à tarte ou 8 moules individuels, un rouleau à pâtisserie, une râpe et une feuille de cuisson. Pour ça, vous aurez besoin de 30 minutes pour la préparation. Il y aura 30 minutes de repos pour la pâte, puisqu'on l'a aujourd'hui, on va faire une pâte brisée. Et en tout, on aura 45 minutes à 1 heure de cuisson. Alors, pour commencer, on va déjà faire une pâte brisée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas comment on fait, je vous ai remis la recette. En fin de compte, on va mettre donc la farine dans un saladier. C'est très simple, hein, une pâte brisée. On met la farine dans un saladier, on met l'eau, le sel, on met le beurre, donc très mou. Alors, une petite astuce, vous le passez 2 secondes au micro-ondes, comme ça il est vraiment mou. Il faut qu'il soit mou, mais pas liquide. Oui. On est bien d'accord. En pommade. Hein, donc, et puis, ces ingrédients, vous allez les pétrir rapidement. Et vous allez voir, ça va très très vite avec les mains, c'est mieux. Les mains propres, ou alors vous mettez des gants.
C'est mieux aussi.
Oui, c'est mieux. Vous pétrissez et vous essayez de former une boule. Et cette boule, vous allez la laisser reposer. Donc une fois que la pâte elle est faite, on la laisse reposer 30 minutes puisque on a besoin qu'elle se repose avant de la travailler, avant de l'étaler. Donc l'important c'est de la mettre au frigo donc 30 minutes. Comme ça, le beurre, il va se refroidir et ça va compacter cette pâte. On va avoir plus de facilité à l'étaler parce que si vous l'étalez tout de suite...
Elle est collante. Hein.
Elle est collante. Mmh. Donc le mieux, c'est de bien, par contre, de la filmer dans le saladier et vous la laisser reposer 30 minutes. Donc, une fois que les 30 minutes sont passées, qu'elle a bien reposé au frigo, vous allez prendre votre rouleau et étaler votre pâte avec la forme du moule à tarte. Alors, surtout quand vous prenez les mesures de votre moule à tarte, vous posez, vous étalez et puis vous comptez bien les bords de façon à ce que vous puissiez tapisser après votre moule correctement et les bords compris. Pour certains, les moules mous, vous n'avez pas besoin de beurrer.
Les moules mous, c'est dur à dire,
les moules
ça.
Mous. Les moules mous, vous n'avez pas besoin de beurrer ni de...
Oui, en silicone, parce que ça, c'est ça que tu veux dire.
Voilà,
oui.
En silicone, vous n'avez pas besoin de beurrer ni de fariner. Pour les moules, les vieux moules, on a besoin, mais c'est à chaque fois un peu galère parce que les moules sont fort abîmés. Vous prenez pas la tête, moi sur des vieux moules, parce que je travaille beaucoup avec des vieux moules, dans ces cas-là, je mets du papier cuisson. Mmh. Je me prends pas la tête. Alors, encore une fois, on le chiffonne de façon qu'il vienne tout mou. Et après, on étale la pâte dessus. Comme ça, vous n'avez plus qu'à mettre, en fin de compte, papier cuisson, avec la pâte, dans le moule,
Est-ce
tout
que
simplement.
Tu mouilles ? Parce que moi, j'ai vu un truc comme ça, où il passait sous l'eau, il le froissait en le mouillant, non. Et du coup, après, c'est comme un chiffon, en fait.
Non, franchement, je ne le mouille pas. D'accord. Je mouille pas. Mais effectivement, je pourrais faire l'essai. Je te dirais ce que ça fait. Mmh. Mais bon, si je rate ma tarte à cause de toi, tu vas m'entendre.
Je vais peut-être tester moi-même alors.
Teste toi-même et après tu me diras ce que t'en voilà. as fait. Donc l'intérêt, c'est moi le papier cuisson. Moi, ce que j'aime bien avec cette matière-là, c'est que je peux moi étaler ma pâte sur le papier cuisson
et le mettre directement.
Comme ça, j'ai pas à la retourner. J'ai pas. Alors par contre, pour éviter que le moule accroche, il faut bien fariner votre moule. Hein, ou la pâte de façon que ça ne colle pas sur le moule. Voilà, et bon, c'est pour une question de facilité. Vous préchauffez votre four, une fois que vous avez fait ça, vous préchauffez votre four à 180 degrés, donc je vous rappelle, thermostat, c'est 6. Et puis, vous allez chemiser. Alors, ce qu'on appelle chemiser la tarte, en fin de compte, vous allez glisser et mettre votre tarte dans votre plat à tarte. Votre pâte dans votre plat à tarte, c'est mieux comme ça. Et puis, vous allez répartir les légumes que vous aurez auparavant décongelés. Donc, vous faites décongeler au micro-ondes ou gentiment quelques heures et égoutter. Donc, vous les mettez dans une passoire, vous les laissez décongeler tranquille. Donc, ça, c'est important de pas les mettre surgelés parce que sinon, ils vont amener de l'eau dans votre tarte et on va avoir une tarte très liquide. Donc c'est pas le but qu'on recherche. Donc si vous avez de la patience, vous mettez des petits légumes que vous avez fait vous-même, hein. Donc de la carotte, de la courgette, pas forcément poivron, les légumes d'hiver. Donc on a le poireau.
Mais si c'est surgelé.
Mais si on n'a pas de surgelé, on peut faire la tarte avec des légumes. Oui, mais des légumes d'hiver.
Oui.
Voilà, on n'est pas dans le poivron. Attention, hein, quand on le fait dans une tarte, ça relève bien. Donc, tout le monde n'aime pas forcément le poivron.
Sûr. Et tout le monde ne le digère pas non plus.
Voilà, donc ça sera pour une autre recette. On fera peut-être une tarte au poivron pour Nathalie.
Oui, alors. J'aime bien les poivrons.
Et puis, donc, répartissez tous les légumes, donc égouttés et décongelés, bien sûr. Et puis, le cantal râpé par-dessus. Et puis, dans un saladier, vous allez battre les œufs, les jaunes, et le lait et la crème, ensemble. Donc, vous fouettez avec un fouet, c'est mieux. C'est pas la peine de le faire mousser, ça sert strictement à rien. Si vous voulez mettre un petit peu de mousse, bon, pourquoi pas, mais ça va partir à la cuisson puisqu'on a quand même 45...
Donc, ça n'a aucun intérêt.
Voilà, ça n'a pas d'intérêt. L'important, c'est que le lait, la crème et les œufs et les jaunes soient bien, bien mélangés, qu'on fasse une belle grosse omelette. Hein, sachant que dans une omelette, il n'y a pas de lait. Vous salez surtout légèrement parce que vous faites attention au goût. Il ne faut pas non plus que ça soit trop salé. Je vous parlais des légumes décongelés. Bien souvent, les légumes congelés, comme ça, ils ont du sel. Donc, c'est pour ça qu'il vaut moins en mettre et goûter la sauce. Donc, salé et poivré selon votre goût, on va marquer. Hein. Et puis, vous allez verser dans votre moule cette préparation. Une fois que vous avez versé, vous enfournez 45 minutes à 1 heure. Et puis, vous allez servir ça une fois tiède, avec une belle petite salade, une amincée de salade. Donc, en ce moment, on a quand même plein de salades. Vous pouvez ajouter des épices. Hein, donc, vous pouvez, dans la préparation de l'œuf, avant de verser le tout sur votre tarte, vous pouvez très bien mettre des épices, genre du paprika. Vous pouvez rajouter, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en épices, de la muscade, du cumin. Vous pouvez rajouter des fines herbes.
J'aime bien les mélanges d'épices marocaines.
Ah, aussi, aussi. Après, vous pouvez la faire à toutes les sauces que vous voulez, toutes les épices que vous voulez. Voilà, cette quiche, vous pouvez la faire en mini quiche à l'apéro ou en moule individuel. La recette est la même, sauf que c'est plus long. Voilà. On a parlé, Nathalie, de la pâte brisée.
Oui.
Et elle est peu connue, cette pâte brisée. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors, cette pâte brisée, elle tient son nom de sa texture qui est unique. Elle est brisée lorsqu'elle est cuite. Cette pâte est alors beaucoup plus cassante que les autres pâtes. Au début, elle servait à contenir certains plats cuisinés salés, des légumes et d'autres. Mais on ne la mangeait pas comme aujourd'hui. Après, les pâtissiers s'en sont servis pour contenir les flans. Et dans ces temps, c'était de la graisse animale qui était utilisée à la place du beurre. La pâte brisée était alors appelée pâte à foncer. Et c'est seulement dans notre temps, d'aujourd'hui, que la pâte brisée fut employée autant que fond de tarte salée ou sucrée.
Merci Nathalie. Alors, pour soulever justement la pâte foncée, moi j'ai appris, donc il y a quelques années, c'était en 83, donc ça nous ramène très très loin, on appelait ça de la pâte à foncer.
D'accord.
Donc c'était la pâte brisée et la pâte, donc la pâte brisée salée, c'était la pâte à foncer et la pâte brisée sucrée, c'était de la pâte sablée. Voilà. C'est juste cette différence-là. Mais il n'y a pas grand-chose de différence. On rajoute du sucre uniquement. Mais
ah, c'est exactement... D'accord. Il y a autant de beurre dans la pâte sablée que la brisée.
Oui. Ah oui.
D'accord.
Oui, oui, oui. C'est des... Après, vous pouvez mettre moins de beurre. Hein, c'est comme vous voulez. Eh bien, on va faire une petite pause avant le plat. Voilà, avant l'ajout de porc. À tout de suite.
Cuisiner en direct avec Anne, dans l'émission Food Anne.
Alors, nous revoici et je vous propose de passer donc au plat, qui est de l'ajout de porc à la bière. Donc, Nathalie, quelque chose peut-être à nous dire sur l'ajout de porc?
Oui, je crois que c'est Théo qui a envie de nous dire
merci, c'est gentil.
Des choses sur l'ajout de porc ce soir.
Oui, parce que je suis tellement gentil que voilà, je me suis dit que j'allais prendre la parole. C'est l'ajout de porc ?
Ajout de porc, oui.
Non,
oui,
parce
oui.
que le oui, début oui, de ton texte dit l'ajout de...
Ajout de porc. Ajout de porc.
Je sais pas, je dis ça.
Ajout de porc. Alors, tu mets porc. Porc. C'est des...
Ah ouais, non, mais ça va être compliqué parce que oui, il y en a beaucoup à changer.
Oui, ben oui, mais à toi de lire. Mais Nathalie aurait su le dire, donc.
Oh, voilà. J'ai pas choisi le meilleur. Alors l'ajout de porc, c'est un muscle issu de la demi-mâchoire intérieure du porc, donc viande ferme riche en tissu conjonctif. C'est une chair peu grasse qui devient très moelleuse après cuisson. Bien qu'étant un muscle, cette pièce ne fait pas partie des morceaux nobles. Elle est considérée comme un abat de fer attaché au produit tripier du porc. Les joues de porc sont les muscles donc masticateurs et élévateurs du maxillaire inférieur. Compliqué à dire ça. Les joues sont vendues par ablation partielle ou totale des papilles et de la glande parotide et ablation totale des ganglions lymphatiques et des glandes salivaires. J'ai l'impression d'être en cours de médecine. Parer signifie élever le surplus pardon, de gras d'une viande et la préparer pour cuisson. Je me suis perdu.
La noix de
chou. Ah oui,
pardon.
La noix de chou. Donc noix de chou et contre-joue. Est composé uniquement de la masse musculaire massétaire. Comme ça qu'on dit, massétaire ? Masséter ?
Masséter.
Elle est vendue au poids, entière ou en cube de 2 cm de côté environ. Chaque animal ne comporte que 750 g de viande de joue, raison pour laquelle de nombreux bouchers hésitaient ou hésitent à prélever ces morceaux. Pourtant, la joue de porc figure en bonne place sur les cartes des restaurants gastronomiques, pardon. À noter que cet abat est toujours vérifié par les services vétérinaires pour la recherche de larves de parasites. Pour les particuliers, ces morceaux sont de plus en plus appréciés. Ils sont commercialisés dans certaines boucheries ou en grande surface, entiers ou en cubes d'environ 2 cm de côté, encore une fois.
Merci Théo.
J'ai réussi à dire porc et pas bœuf.
Alors, pourquoi j'ai pris l'ajout de porc et pas de bœuf Tout est une question de goût et de tendre. La texture de la bœuf, enfin moi, je l'apprécie moins que celle de porc. Voilà. Donc après, c'est comme on veut.
Il faut plus mastiquer avec le bœuf, je crois.
Et puis c'est plus
filandreux. Le porc, c'est plus fondant.
C'est plus filandreux. Oui. Alors que le porc, c'est plus fondant. Oui, comme tu dis, c'est vraiment un délice. Surtout qu'elle est, quand elle est bien, bien cuite, vous allez voir, il y a quand même deux heures de cuisson.
Ah, mais de toute façon, le porc, il faut bien, bien, bien le cuire, justement, pour éviter les fameux parasites qui peuvent donner le ver solitaire, entre autres.
Oui, mais une heure, ça suffirait. Si une heure, en faisant un petit bouillon, ça suffirait. Là, pour que la viande elle soit bien, bien cuite, c'est 2 heures à 2 heures et demie quand même. Hein.
Donc, ça mijote.
Faut que ça mijote tranquillement. Alors, on revient à notre recette de joue de porc à la bière. Je vous rappelle un petit peu les ingrédients. Donc, il vous faut du beurre et de l'huile, une cuillère à soupe de miel, du poivre, du sel, 1 kg de joue de porc, 2 oignons, 250 g de lardons, 33 centilitres de bière, qui équivaut à une canette. On aura besoin de 4 carottes. Et puis, côté ustensile, on aura besoin d'une cuillère en bois, d'une marmite avec un couvercle, un plat à service, un économe et un couteau. Pour la préparation, il faut 5 minutes de préparation.
Voilà, c'est très très rapide.
C'est rapide, il n'y a vraiment pas grand-chose, 5 minutes de préparation et vous avez par contre 2h20, j'ai marqué, mais 2h30 de cuisson. Hein, il faut vraiment que ça cuise gentiment et doucement. Alors, dans une poêle, vous allez faire revenir déjà, dans un premier temps, la viande. Donc on mélange beurre et huile. Hein, vous mélangez les deux. Alors, pourquoi on fait ça ? Pour éviter que le beurre ne brûle et donne un goût à la viande.
D'accord.
Donc, on va mélanger les deux. Une fois que les joues, elles sont dorées de chaque côté. Hein, donc on ne les coupe pas. Ça ne sert à rien. On met les lardons dans la marmite, hein, dans la poêle dans laquelle vous avez mis... vos joues. Oui. Vous mettez les oignons qui sont émincés, bien évidemment. Et puis vous allez rajouter la cuillère de miel et ajouter la bière. Moi, je rajoute une petite pointe d'eau en plus. Voilà, genre la moitié de la canette, je rajoute de l'eau. Et puis vous allez saler légèrement. Faites attention parce que si vous avez pris des lardons, les lardons sont déjà salés. Et puis, vous allez poivrer. Voilà. Et vous couvrez. Et vous allez laisser mijoter en feu moyen. Donc, une fois que ça bulle, une fois que ça boue un petit peu, vous baissez votre gaz. Et vous mettez à mijoter pendant 2 heures à feu moyen. En surveillant, bien évidemment, s'il reste encore du jus. Parce que plus il y a de jus, meilleur c'est. Et une heure avant la cuisson. Une heure avant la cuisson, vous allez éplucher et laver vos carottes Et puis, vous allez les couper en rondelles et vous allez les mettre dans votre plat. Donc, elles vont cuire pendant une heure avec votre, plat. Et puis, vous allez mettre ce plat, quand tout est cuit au bout de deux heures et demie, vous mettez ça dans un plat à servir et ça sera prêt à servir. Vous aurez et les légumes et la joue. Vous auriez pu mettre des pommes de terre aussi. On peut mettre des pommes de terre. Moi, je trouvais que les carottes, ça pouvait être bien. Mmh. Et c'est un beau mélange de salé sucré. Le miel, on le sent à peine, mais il y a un léger goût au niveau du miel. Choisissez toujours un miel qui est un petit peu... le miel d'acacia qu'on utilise beaucoup dans la pâtisserie et dans la cuisine. Voilà, le miel d'acacia est un peu plus fort. Voilà. Alors, on s'est servi d'un ingrédient qui est la bière.
Oui.
Et moi, j'aimerais bien que Nathalie ou Théo, puisque maintenant vous avez décidé de changer, donc que vous interveniez un petit peu sur cette bière, de la bière.
Je vais vous raconter l'histoire de la bière. Elle est intimement liée à celle de ses ingrédients, ainsi qu'aux avancées technologiques qui firent de cette boisson le breuvage que l'on connaît aujourd'hui. Les premières cultures de céréales, notamment de l'orge et de l'épeautre, c'est une variété de blé, ont été attestées en 8000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Tous les ingrédients étant disponibles dès cette époque, la bière pouvait donc exister et l'on estime son invention ou sa découverte à 6000 ans avant Jésus-Christ. Et cependant, les preuves formelles de son existence découvertes dans la province de Sumer remontent au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et à cette époque, la bière était alors appelée sicaru, comme la traduction littérale est pain liquide, était à la base de l'alimentation quotidienne. On la fabriquait par cuisson de galettes à base d'épeautre et d'orge que l'on mettait à tremper dans de l'eau afin de déclencher la fermentation nécessaire à la production d'alcool, et que l'on assaisonnait avec de la cannelle, du miel ou toute autre épice en fonction des préférences des clients. La bière connue des peuples de Chaldée, maintenant c'est Irak et Koweït, et d'Assyrie, c'est ce qui correspond à l'Irak, la Syrie, le Liban et Israël, devenue monnaie d'échange, commença la dissémination. C'est dur à dire. Des recherches archéologiques ont pu démontrer que les provinciaux brassaient déjà leur bière au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, elle est consommée en famille et utilisée comme moyen de paiement à Babylone, boisson des dieux en Égypte, où l'on appelait énégète. La bière devint, dans la Grèce antique, Diodore de Sicile dit qu'elle fut inventée par Dionysos. Et dans l'Empire romain, celle du pauvre. Et le vin, celle des dieux. Elle resta cependant la boisson de choix du peuple du Nord, celte et germain. La préférence pour le vin se confirma dans l'Europe chrétienne au début du Moyen-Âge, notamment grâce au concile d'Aix-la-Chapelle de 816, qui encouragea les viticultures épiscopales et monastiques dans le but de célébrer l'Eucharistie. Et il fallut attendre le 8e siècle pour voir le brassage de la bière y reprendre de l'importance, en particulier en Bavière. Par la suite, aux environs du 12e siècle, certains monastères, par exemple en Alsace ou en Bavière, se spécialisent dans le brassage de la bière, bu par la population à la place d'une eau souvent non potable, jeton de la Corporation des Brasseurs du Nord. Aujourd'hui, la bière jouit d'un succès mondial en tant que boisson désaltérante et de dégustation. Ce succès remonte au 19e siècle où la maîtrise de la fermentation basse grâce à la réfrigération et la pasteurisation permirent la production de nouvelles variétés de bière ainsi que leur exportation.
Merci Nathalie, c'est quelle culture ! C'est une belle page de culture, est-ce que tu savais tout ça ?
Que c'était si ancien que ça ? Non, pas du tout.
C'est surprenant quand même, les pays ouais. où elle était et où l'alcool est interdit.
C'est ce que j'allais dire en fait.
C'est un
oui.
peu... Moi j'étais un peu surprise ouais. quand j'ai préparé l'émission, c'est qu'on parle quand même d'endroits. Bon, l'abus d'alcool n'est pas autorisé ou non c'est quoi le slogan
Je ne sais plus.
Tu peux nous dire,
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Voilà, c'est ça.
À consommer avec modération.
Voilà, et on insiste juste là-dessus, hein, on est bien d'accord, c'est pour ça qu'on en parle, mais c'est uniquement pour cuisiner, on ne la boit pas. Voilà, bah écoutez, après cette page de culture, avant le dessert, moi je vous propose une petite pause et puis on se retrouve tout de suite.
Mon père adore le foot, crée, allez les rouges dans sa tête, il dort, mais le réveillons pas, ma main sans aucun doute, rêve d'un boy scout, capitaine, à bord du Santa Maria. Je voudrais bien savoir la loi des sentiments, les cœurs en feu brûlent en hiver, c'est à n'y rien comprendre, l'amour est fascinant, fait tourner le monde à l'envers. Oh, je suis l'enfant du Tarida et de la Sainte Marie.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici et puis on va donc parler de notre dessert qui est un peu spécial ce soir, à savoir que je l'ai appelé le dessert qui est pâte en moins de deux. Alors il y a un ingrédient qu'on utilise souvent pour décorer, c'est le vermicelle au chocolat ou le vermicelle de toutes les couleurs qu'on utilise en général pour décorer les gâteaux. Et j'aimerais que Nathalie, et qu'on va utiliser sur cette recette, j'aimerais que Nathalie, tu puisses nous en parler de vermicelle.
Bah écoute, étant donné qu'il y a des mots un peu compliqués pour moi, Théo s'est proposé, donc je dis Théo, allons-y.
Non, finalement, je vais te laisser te fondre, comme dirait.
C'est gentil. Donc j'y vais.
Non, tu veux que j'y aille ?
On prend une décision.
Allez, chacun son tour. Les vermicelles en chocolat, donc vermicelles sucrées et vermicelles sucrées. Alors, c'est là que ça commence. Hagelslag, qui signifie coup de grêle, ou encore Misanthronstes, qui veut dire crotte de souris, en Belgique néerlandophone, pardon. C'est un élément culinaire néerlandais composé de copeaux de chocolat ayant la forme de cylindre ou de petits grains de riz. Il est consommé aux Pays-Bas, en Belgique, au Suriname et en Indonésie, et il est communément trouvé en dehors de ces pays. Il est utilisé comme garniture dans les sandwichs ou des tartines directement ou sur une couche de beurre ou de margarine. Les desserts et pâtisseries sont parfois garnis. Les Hagelslag auraient été inventés vers 1809 par Hermann Dieppe.
1908, pardon.
1908, j'ai dit quoi ?
1809,
t'as inversé. Oui, c'est pas grave. 1908 par Hermann Dieppering. Rink, compliqué à dire ce nom, de l'usine de confiserie à... Oh là, ça, c'est encore compliqué. Vorenveld & Co. et s'inspire de la grêle qui tombait à l'extérieur. Des archives de recettes sont d'ailleurs trouvées remontant aux années 1920 à 1940. Selon les chiffres de l'Institut National de la Santé Publique et de l'Environnement, un Néerlandais sur cinq, ajoute du chocolat sur ses tartines et un enfant sur trois. On peut encore trouver la recette originale dans les archives de la ville d'Amsterdam. La société Venco utilise ensuite le Hagelslag à des glaciers et des épiciers. J'ai dit utilise, je veux dire vend ensuite le Hagelslag. La réglementation impose que le Hagelslag contienne au moins 32% de cacao, sinon le terme cacao fantasy est utilisé. Merci Anne de m'avoir fait dire 40 fois en un paragraphe Hagelslag que je ne connaissais pas.
C'est néerlandais.
C'est néerlandais. Et quand vous allez en Hollande, ils vous servent, dans les restaurants, vous avez des petites coupelles et il y a justement qui sont spécifiques. On ne retrouve pas le goût en France, qui sont spécifiques aux Pays-Bas et à la Belgique. Et vous avez des coupelles et vous servez, vous le mettez dans le café, vous le mettez dans le chocolat chaud, vous en mettez partout. Et moi, j'ai souvenir d'avoir mangé des tartines avec du beurre, d'avoir ramené ça à la maison et parsemé de petites vermicelles de ma tartine et le manger comme ça parce que ça avait un goût mais qui a rien à voir aux vermicelles qu'on se trouve en France. Vraiment, ça n'a rien à voir. Si vous avez jamais eu l'occasion d'aller en Hollande, prenez un paquet de vermicelles au chocolat, vous allez voir, c'est une tuerie ce truc. Voilà, bon. Moi, c'était une parenthèse. Merci Théo pour nous l'avoir ouvert. Alors, ce dessert un peu particulier, je vais vous raconter une anecdote d'abord. Imaginez que vous avez fait un superbe repas et puis que vous avez préparé un repas avec soin, que tout le monde a bien mangé et que vous allez chercher à la cuisine votre dessert et puis à la sortie, la tarte du four, l'horreur, elle a cramé ou c'est raté, affreuse, ou vous la sortez et vous la foutez par terre. Enfin, vous imaginez un petit peu la panique.
Ah, ça m'est arrivé, ça.
Voilà, donc si je raconte ça, c'est que moi aussi, quelque part, ça m'est arrivé. Donc voilà, vous n'allez pas laisser vos invités sur leur faim. Vous allez préparer un repas, un dessert qui va être fait en 2 minutes. Alors c'est sûr, ça ne sera pas le merveilleux gâteau à étage, ni une charlotte, ni autre dessert de ce genre. Mais ce sera votre truc, c'est un truc très simple, très bon et qui vous sauve la mise. Franchement, allez, je vais pas vous faire saliver plus longtemps. Je vous redonne les ingrédients qui sont, après c'est au gré du goût, de vos goûts. On a moi, la base, j'ai essayé de la retrouver. Donc, 2 cuillères à soupe de sucre, 3 pommes, 1 cuillère et demie une poignée et demie de céréales style cornflakes, 12 cuillères à soupe de fromage blanc, 1 cuillère et demie de cannelle ou 1 cuillère, ça suffit, ou pas, comme vous voulez, 1 cuillère et demie de cassonade, une belle cuillère à soupe de crème fraîche et épaisse, c'est mieux. Et puis 50 g de chocolat et à dessert, du vermicelle de couleur ou de chocolat, c'est comme vous le souhaitez. Pour les ustensiles, on aura besoin d'un fouet, d'un saladier, de 6 verres, donc 6 verres ou grande verrine, comme vous voulez, un économe, un couteau, un plat allant au micro-ondes, une casserole, une cuillère en bois et vous comptez à peu près 10 minutes de préparation. Alors 10 minutes de préparation, pour la simple raison, c'est que moi j'ai rajouté du chocolat. Mais si vous enlevez le chocolat, c'est 2 minutes montre en main. Donc tout bête, vous allez éplucher vos pommes et enlever les pépins et le trognon. Et couper ces pommes en cubes. Donc, vous allez mettre...
En petits cubes ?
Oui, en cubes, voilà. De façon à ce que, quand on prend un cube, on le met en bouche. C'est pas un gros cube.
Oui, voilà, faut que ce soit un petit cube.
C'est une bouchée. Okay. Une bouchée. J'ai pas dit en macédoine. Macédoine, c'est plus petit. Là, c'est en cube. Donc, un petit cube de 1 sur 1. Voilà, pour Nathalie, on va être précise. Ensuite, vous allez les parsemer un peu avec la cannelle. Vous allez mettre ça dans un plat qui va au micro-ondes. Vous mettez la cassonade avec et vous mettez quelques minutes au micro-ondes. Vraiment, vous mettez 2 minutes. Ça dépend la puissance de votre micro-ondes. Moi, 2 minutes à pleine puissance, ça suffit amplement. Il ne faut pas que vos pommes soient molles. Sinon, ça n'aura pas la même chose. Donc on fouette le fromage blanc avec le sucre et puis on fouette avec la crème fraîche et puis vous allez donc le temps de fouetter un petit peu le fromage blanc, le sucre, les pommes qui se cuisent, vous sortez vos 4 verres à vos 4 cuillères, les céréales, c'est déjà le four qui sonne.
C'était le four. Le bruit du four.
Oui, j'ai
fait ce bruit là ton four. Drink.
Voilà, bon, il ne fait pas bip, 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 il fait drink. Voilà, et donc vérifiez bien que vos pommes sont cuites. Elles doivent être très tendres et vous les remuez un petit peu pour qu'elles se macèrent avec le sucre, la cassonade et la cannelle. Et puis, on va passer au montage. Alors, le montage, vous allez mettre 2 à 3 cuillères à soupe de céréales dans chaque verrine. Puis, vous allez rajouter les pommes. Puis, vous allez remettre une cuillère à soupe de céréales. Et puis, vous allez mettre 2 cuillères à soupe de fromage blanc dans chaque verre. Voilà. Puis, vous pouvez remettre un petit peu de céréales pour finir. Vous mettez du vermicelle. Moi, j'ai rajouté la sauce au chocolat. Donc, je vous rappelle la sauce au chocolat, comment on l'a fait. Pour ceux qui ne savent pas, le chocolat, vous le coupez, donc c'est du coup chocolat spécial pour pâtisserie, pour dessert. Vous le coupez, donc vous prenez quelques 50 grammes, ça suffit, et une cuillère à café de crème fraîche, une cuillère à soupe de crème fraîche. Vous mélangez, vous laissez fondre gentiment à feu doux. Et une fois que c'est fondu, vous allez voir, c'est un petit peu épais, ça s'appelle de la ganache. Oui, et on va la déposer. Vous pouvez la mettre dans une saucière ou dans... j'ai perdu le terme pour... une saucière. Une saucière ou un bec verre, avec un bec verseur... Une petite carafon, un carafon. Oui. Comme ça, les gens se servent par-dessus. Le mieux, c'est de la servir. Comme ça, ça coule le long du fromage blanc. Vous pouvez aussi très bien, à la place du fromage blanc, mettre de la crème fraîche. Mais c'est beaucoup plus riche. Oui. Ça, c'est les variantes que vous mettez. À la place du chocolat, vous pouvez aussi mettre du coulis. Voilà, un coulis de fruits, ça peut être sympa. Mais vous voyez qu'en 2 minutes, vous faites un dessert. Voilà, c'est pas compliqué. Et puis, vous ramenez votre dessert avec tout souriant. Et les gens ne savent pas que vous avez raté votre tarte ou votre gâteau. Voilà, donc vous pouvez aussi parfumer votre fromage blanc si vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment un dessert. Alors, c'est un dessert que vous pouvez manger ou au dessert, évidemment, puisque on l'a présenté, ou au goûter, ou au petit-déj. Voilà. Et ça, au petit-déj, pour ceux qui n'aiment pas le lait et qui préfèrent le fromage blanc, ceux qui n'aiment pas le fromage blanc, mais vous pouvez rajouter avec un yaourt, et vous n'avez pas besoin de mettre forcément du sucre dedans, et vous mangez ça, et vous avez les céréales qui vous apportent des bienfaits, la pomme qui est un fruit.
Les fibres aussi.
Et vous avez les cornflakes ici, qui sont des fibres. Donc, vous avez un repas complet. Donc, arrêtez de ne pas déjeuner. Arrêtez de ne pas goûter. Faites-vous ça. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Voilà. pour se remettre un petit peu de nos émotions, parce que moi j'ai la bouche qui salive tellement j'en parle et j'adore ce petit truc sympa, et ben je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après une pause.
En direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici et avant la pause nous parlions d'un ingrédient qui est les céréales et j'aimerais bien que Nathalie tu nous éclaires nos lanternes sur justement ces céréales.
Alors les flocons de maïs ou pétales de maïs aussi appelés cornflakes, c'est un produit alimentaire dérivé du maïs. C'est un mets à base de maïs, cuit, mais avec du sucre et des vitamines. La pâte est aplatie et grillée en forme de flocons familiers qui sont habituellement consommés au petit déjeuner, servis avec du lait. La majorité du maïs à flocons est aujourd'hui produite en Argentine à partir de la variété Plata. L'histoire des cornflakes trouve son origine à la fin du 19e siècle. En 1894, le docteur John Harvey Kellogg, directeur d'un sanatorium à Battle Creek dans le Michigan, introduit cette recette dans le régime végétarien qu'il imposait à ses patients et qui excluait aussi l'alcool, le tabac et la caféine. Le régime qu'il imposait n'était constitué que d'aliments insipides. Il était en fait partisan de l'abstinence sexuelle et suivait les préceptes de Sylvester Graham, qui affirmait que les mets doux ou piquants pouvaient exacerber les passions, tandis que les flocons de céréales auraient un effet anti-aphrodisiaque et permettraient de lutter contre la masturbation. Donc cette idée de flocon de céréales commença par un accident lorsque le docteur Kellogg et son frère Will Kef Kellogg laissèrent un peu de blé bouilli à refroidir, et pendant qu'ils s'occupaient des problèmes du sanatorium, à leur retour, ils constatèrent que le blé était devenu rassis, mais vu qu'il avait un budget limité, ils décidèrent de continuer à le travailler en l'aplatissant à l'aide de rouleaux, espérant obtenir une grande feuille de pâte. À leur surprise, ce qu'ils obtinrent furent des grains aplatis qui, une fois grillés, donnèrent des flocons légers et croquants qu'ils servirent à leurs patients. Alors cela se déroula approximativement le 14 avril 1894 et le 31 mai suivant. Le produit fut breveté sous le nom de granose. Les flocons de blé servis avec du lait devinrent rapidement un mets très populaire chez les patients, si bien que les frères Kellogg commencèrent à expérimenter la recette avec d'autres céréales. Et en 1906, Will Kef Kellogg, qui travaillait donc comme directeur administratif du sanatorium, décida de lancer le produit sur le marché, créant sa propre entreprise, la société Kellogg's. Pour cela, il dut se quereller avec son frère au sujet de l'ajout de sucre dans les flocons pour leur donner quand même une saveur plus agréable et mieux stimuler les ventes. Il ajouta en 1909 une offre spéciale, un livre d'images sur les animaux de la jungle, le Funny Jungleland Movies Pictures Booklet, donné à quiconque achèterait deux paquets de céréales. Ce même prix fut offert pendant 23 ans. Et dans l'intervalle, Kellogg commença à expérimenter de nouvelles céréales pour compléter sa gamme de produits. Les Rice Krispies, donc c'est du riz croustillant, son grand succès, furent mis en vente pour la première fois en 1929. Un ex-employé de la société Kellogg's, M. Post, fonda une entreprise rivale qui devint la seconde marque de cornflakes aux États-Unis, les Post Toasties.
Merci, Nat. Donc, tu vois, les céréales, ça date de 1929 quand même. Hein,
ouais, enfin, c'est encore un hasard, en fait.
Mais oui.
Voilà, la recette, c'est
mais la plupart des choses, si tu regardes bien l'histoire de la pâtisserie, de la cuisine, on va prendre un exemple, hein, la tarte tatin.
J'allais le dire.
La tarte tatin, c'est une bêtise de fait. Peut-être que le dessert là qu'on a présenté ce soir, ça sera dans 20 ans ou 50 ans, un dessert de luxe qui sera repris. Voilà. Bon, c'est pas moi qui l'ai créé ce dessert. Enfin, je pense pas. Moi, ça fait des années que je fais ça. Je l'ai retrouvé sur le web. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà. Mais voilà. Je pense que ça vaut bien une pause avec tous ces trucs. Voilà. Moi, j'étais contente de savoir que c'est Kellogg's quand même. Hein, c'est deux frangins qui se sont disputés.
Oui, c'est pas rien. C'est encore aujourd'hui, je crois que c'est encore le premier certainement dans le monde.
Oui, je pense aussi. Donc on se retrouve tout de suite. You say you have a bad obsession, and you know.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors, on n'a pas vu l'heure passer et on s'est rendu compte qu'on avait presque dépassé. En fait. C'était déjà la fin. Donc, on a juste le temps de vous dire bonne soirée. On se retrouve la
semaine
prochaine. Bonne dégustation. On se retrouve la semaine prochaine pour préparer la Saint-Valentin. Et ouais. Oui, déjà. On prend un peu l'avance. Comme ça, vous aurez le temps de préparer parce qu'il y aura. Ça sera plein de surprises. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. On vous souhaite une belle soirée, un bon appétit et surtout prenez soin de vous. Très bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.